Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des questions sur la sexualité, il n'y a pas d'âge pour en poser. L'anatomie, la connaissance du corps est une source de grande curiosité chez les enfants, mais pour des raisons très diverses, le silence vient souvent contrarier cette envie naturelle de savoir, d'apprendre de la part des plus jeunes. Les adultes changent de sujet lorsqu'ils ne froncent pas les sourcils en balayant d'un « tu es trop jeune pour cela » qui ne donne pas vraiment envie de poursuivre la conversation. Donner les bonnes réponses n'est pas toujours évident lorsque nos parents ou notre entourage ne nous ont pas expliqué, pas simple de trouver les mots, de choisir les expressions appropriées. Pourtant, quoi de plus normal que de demander des explications lorsque le corps est en train de changer, lorsque l'on saisit certaines conversations d'adultes dont on voudrait comprendre le sens. Le corps change, les émotions évoluent, le désir sexuel apparaît et il n'est pas toujours évident de savoir comment vivre avec ces nouvelles sensations. Le silence, lui, n'empêche pas, bien au contraire, l'adolescent en manque d'informations de poursuivre ses recherches, quitte d'ailleurs à se renseigner auprès d'une source qui manque vraiment de fiabilité. Informer, préserver, renseigner, corriger certaines idées reçues, rassurer, donner des repères, le consentement, les préjugés en termes de performance, de genre, complexe, prévention des maladies et infections sexuellement transmissibles, des notions essentielles qui font partie de l'éducation et qu'il ne faut surtout pas passer sous silence.
Priorité Santé sur RFI.
Et ces questions d'adolescents, aujourd'hui dans Priorité Santé, pour y répondre, elle est bien là et on a le plaisir de vous retrouver. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs.
Alors, docteur Solano, sexologue, le thème de cette émission, en fait, il est directement lié au livre que vous venez de signer aux éditions Robert Laffont, le grand livre de la puberté, plus de 300 pages illustrées, questions très nombreuses, tout autant de réponses, docteur Solano. C'est vrai que les ados, les adolescents, se posent énormément de questions au moment, à ce moment très bizarre où le corps se transforme.
Oui, parce que notre corps, il se transforme toujours depuis notre naissance, toute notre vie. Mais en fait, à la puberté, il y a une accélération des changements. Donc, c'est vraiment pas facile pour eux. Et leur question principale, c'est est-ce que je suis normale? Est-ce que ce qui m'arrive est normal? Parce qu'on leur explique pas toujours tout. Et je dirais même que quand on leur explique, ben, c'est pas forcément ce qui les intéresse qu'on leur explique et ils n'osent pas forcément poser les questions. Et je me rappelle un collègue qui disait une chose, c'est difficile d'être adolescent, disait-il, parce que on se couche le soir et on ne sait pas comment on va se relever le lendemain. On peut avoir l'image un bouton qui est apparu.
L'image est jolie. Vous voyez. Oui, un grand besoin, on l'entend, d'être rassuré. D'ailleurs, docteur Solano, est-ce qu'on répond de la même manière à des questions d'ados qu'à des questions d'adultes sur la sexualité, ou est-ce qu'on change un petit peu la nature des explications?
Ben, disons qu'on répond de la même manière, oui, dans le sens où il faut être aussi honnête et pas raconter de bêtises, hein, pas n'importe quoi, mais évidemment, il faut s'adapter à l'âge, parce qu'on peut commencer à devenir ado ou pré-ado dès 9 ans, il y a des filles qui ont leur première règle à 9 ans, donc on va pas leur dire les mêmes choses qu'à une fille qui a 16 ans, 17 ans et qui est plus prête d'avoir ses premières relations sexuelles que celle de 9 ans. Et puis d'autre part, ce qui est important, c'est de ne pas être intrusif dans leur intimité, parce que l'adolescence, c'est aussi un changement des émotions où on s'éloigne un petit peu de ses parents, on a besoin de son jardin secret un peu, hein. Et donc il faut pas que les adolescents se sentent acculés à être obligés de raconter des choses trop intimes. Donc c'est pas évident pour les parents, parce qu'il faut à la fois être à l'écoute et parler, mais ne pas trop être intrusif. Et non plus, les parents ne doivent pas non plus parler de leur propre relation sexuelle à leurs enfants, ne pas non plus leur dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Donc, c'est un équilibre très délicat. C'est pour ça que tous les parents se posent pas mal de questions aussi.
Alors, beaucoup d'explications à donner, beaucoup de questions. Justement, on va donner la parole aux jeunes auditeurs et auditrices de notre émission.
Priorité Santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on ne va pas échanger en direct parce que, docteur Solano, les auditeurs nous ont laissé ces messages enregistrés hein, sur le répondeur de Priorité Santé. Alors, le premier message, cette première question. Jeune auditeur, 16 ans, c'est Candide et il est en ligne du Bénin.
Salut. Moi, je m'appelle Candide, j'ai 16 ans et je suis de l'Afrique au Bénin. La question que moi, j'aimerais poser, qu'est-ce qui se passe quand nous allons trop vite à la pratique sexuelle, quoi? Et ça, j'ai posé cette question parce que la plupart des jeunes, des ados d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et puis aussi, ma deuxième question, qu'est-ce qui se passe quand un jeune homme se masturbe seul ou une jeune fille se masturbe pour se jouir, quoi? J'ai mes copains qui font ça, qui se masturbent chaque jour. Et j'aimerais aussi savoir les conséquences de la masturbation.
Alors, ces questions de Candide, pardon, il y a plusieurs questions. D'abord, quand on parle de rapport sexuel trop tôt, hein, là je reprends son expression, qu'est-ce que vous en pensez, docteur Solano?
Ben, j'ai trouvé sa question très intéressante parce que ça montre que lui-même à 16 ans se dit c'est trop tôt. Donc ça veut dire qu'il se rend compte que quelquefois, parfois pour frimer devant les copains ou par curiosité simplement, on a tendance à le faire trop tôt. Et donc le problème quand on le fait trop tôt, enfin il y en a plusieurs, c'est qu'on est souvent moins capable de prendre ses responsabilités. Parce qu'un rapport sexuel, ça veut dire qu'on prend un risque de grossesse ou d'infection sexuellement transmissible. Si on est un petit peu trop jeune dans sa tête, on peut se dire la sexualité c'est agréable, c'est marrant, ben oui, mais c'est aussi très impliquant à cause de ces risques justement. D'autre part, quand on est très jeune, on peut ne pas encore trop savoir ce qu'on veut, ne pas oser dire non à l'autre, ne pas oser arrêter les choses et ne pas avoir un consentement très évident. Donc et j'ajoute aussi qu'il y a beaucoup de personnes très jeunes qui peuvent se faire manipuler par des personnes beaucoup plus âgées. Vous voyez, c'est pas pareil. Un garçon de 16 ans qui a son premier rapport sexuel peut-être un peu tôt avec une copine qui a son âge que quelqu'un qui a 16 ans et qui a son premier rapport avec quelqu'un de 50 ans. On peut se poser la question de la manipulation. Donc, c'est vraiment important pour avoir un premier rapport sexuel réussi d'être capable de prendre en charge idéalement tous les deux, le garçon comme la fille, la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles, de prendre son temps parce que souvent, c'est beaucoup mieux. La première fois est beaucoup plus réussie. Il y a eu des études là-dessus, hein, c'est pas mon point de vue. Si ce sont deux jeunes qui se connaissent déjà depuis un moment, qui sortent ensemble, qui se sont embrassés, qui se sont fait des caresses pendant plusieurs mois, souvent, avant d'avoir leur premier rapport sexuel. Parce qu'on apprend petit à petit à apprivoiser un peu le corps de l'autre, à pas être trop stressé, à oser en parler. Alors que si on se dit, il faut absolument que j'ai 16 ans, je le fasse dans le mois qui vient, on va faire n'importe quoi et on prend des risques pour la santé, aussi le risque de faire du mal à quelqu'un parce que ça va être seulement un peu un objet. Donc, il y a beaucoup de choses dans la question de Candide, je trouve.
Alors justement, cette question, elle porte également sur la masturbation, docteur Catherine Solano. Hein, une question très fréquente sur les conséquences pour la santé de la masturbation.
Alors, il n'y a aucune conséquence pour la santé de la masturbation. C'est pas du tout mauvais pour la santé. C'est même universellement pratiqué. Hein. Je crois qu'à 18 ans, les chiffres, c'est 97% des garçons ont déjà pratiqué la masturbation. Donc, c'est vous dire que c'est beaucoup. Donc, il y en a qui le font tous les jours, même plusieurs fois par jour. Il n'y a aucun problème. Alors évidemment, quelqu'un qui le fait 18 fois par jour et qui ne voit plus personne, c'est qu'il a un problème. Mais son problème, c'est pas la masturbation, c'est que il est pas bien dans sa tête, il est en dépression, très anxieux, il y a quelque chose qui va pas. Mais la masturbation par elle-même, c'est pas du tout gênant. Sauf évidemment si on frotte trop fort son pénis et qu'on lui fait mal. Bon, mais ça, c'est vraiment, c'est quand même assez rare. Et puis, j'en profite pour rajouter un petit conseil qui va servir à tous nos auditeurs, même moins jeunes. C'est que la masturbation peut poser un petit problème. C'est que si on le fait très, très vite, pour ne pas être surpris ou parce qu'on est un peu honteux, eh bien, on va entraîner le corps à avoir une éjaculation très rapide quand on est un homme. Et du coup, ben, quand on aura des rapports sexuels, on va tendance à avoir une éjaculation précoce. Donc, c'est mieux, si on peut, de le faire dans des bonnes conditions. On prend son temps et on le fait tranquillement. Voilà ce que je peux dire à Candide.
À Candide. Mais en tout cas, ce qu'on entend à travers vos explications, docteur Solano, c'est qu'il y a quand même une honte associée à la masturbation. Si on demande aussi souvent si c'est mauvais pour la santé, c'est parce que peut-être certaines personnes laissent croire pour des raisons morales que c'est mauvais pour la santé.
Oui, c'est-à-dire qu'autrefois, surtout au niveau des religions, on disait beaucoup que c'était très mauvais pour la santé, que ça rendait sourd, que ça rendait aveugle, que ça donnait la syphilis, que ça donnait tout ce que vous voulez, que ça paralysait, que ça rendait fou.
Ce qui est totalement faux.
Non, parce que s'il y a 97% des garçons qui l'ont fait, il y en a 99,99% qui sont en bonne santé quand même. Donc non, c'est pas du tout dangereux pour la santé.
Alors,
vous avez raison d'insister, Caroline.
Oui, là-dessus, parce que souvent, il y a des fausses idées qui circulent. Question de nos auditeurs sur la page Facebook de l'émission, il y en a également, y compris des parents qui s'interrogent, notamment sur la manière d'aborder cette question avec leurs enfants. C'est le cas de Raven. Il vit à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Il pose cette question. Est-ce qu'on doit parler de la sexualité à notre fille de 9 ans qui vient d'avoir ses premières menstrues, docteur Solano?
Alors, c'est vrai que c'est une très bonne occasion de parler de sexualité. Mais bon, comme elle a seulement 9 ans, déjà, il faut commencer à lui parler des règles, lui expliquer ce que c'est, lui dire que quand on commence à avoir des règles, ça veut dire qu'on est déjà fertile ou qu'on va l'être sous peu, donc que son corps est maintenant capable de faire un enfant, donc ça, c'est hyper important. Bien sûr, il faut lui parler aussi de la toilette intime pendant les règles, lui dire il faut vraiment se laver tous les jours, voire deux fois par jour quand on a ses règles, que l'eau, ça suffit. Il faut lui apprendre comment on nettoie ses sous-vêtements s'ils sont tachés à l'eau froide, parce que ça aide le sang à partir. Il faut lui expliquer comment on utilise une protection, éventuellement un tampon, etc. Et puis, peut-être lui demander si elle a des questions, parce que quelquefois, on va expliquer des choses, mais on n'explique pas forcément la question qu'a cette petite jeune fille. On peut aussi lui dire que, comme elle a ses règles, ça veut dire qu'elle a des hormones qui ont déclenché tout ça. Elle a certainement les seins qui ont déjà un petit peu poussé, et lui dire, maintenant tu vas sûrement te sentir attirée par les garçons, c'est normal, parce que c'est lié aux tes hormones, tu commences à devenir une femme même si tu as seulement 9 ans. Peut-être qu'on peut aussi lui dire, mais c'est pas du tout pour ça que tu es prête à avoir des rapports sexuels, il faut vraiment des années encore, quand on a 9 ans, avant d'être physiquement et émotionnellement prête à avoir des relations sexuelles. Et
puis, on est encore un enfant. On est un enfant.
Ah oui,
tout simplement.
Et puis, on est encore un enfant, exactement. Même si la puberté est commencée, on est un enfant. Et puis, le jour où ça viendra, il faudra trouver la bonne personne. Donc, je pense que c'est une manière de commencer à aborder la sexualité, mais pas rentrer directement dans les rapports sexuels et tout, sauf si, bien sûr, si elle pose des questions. Et de lui dire, tu peux me poser des questions à ce sujet, je ne sais pas tout, parce que personne ne sait tout, mais j'essaierai de te répondre de mon mieux, de chercher les réponses auprès de personnes, etc. Vous voyez, même on peut lui dire, si tu as besoin d'informations médicales, ou si tu as des problèmes à ce niveau-là, des brûlures, des douleurs, on peut aller voir un médecin pour lui poser des questions, pour te faire examiner, etc. Parce que c'est une zone très importante pour la santé.
Alors, une autre question. Une autre question de parents, docteur Catherine Solano, là aussi sur Facebook. Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'en reparler avec ce que nous demande Aboubacar, qui est au Tchad, à N'Djamena, et donc qui interroge, peut-on dire à son enfant, hier nous avons eu un rapport sexuel, est-ce qu'on peut parler de la qualité de son de sa partenaire à son enfant?
Alors, la question, c'est très clair, c'est non.
J'allais vous dire, c'est une question, oui. Là, pour le coup, tout à l'heure, vous disiez ne pas répondre aux questions que les enfants ne se posent pas. C'est bien ça.
Exactement. Voilà, et puis même les psys disent la vie sexuelle des enfants et des parents doit rester étanche. C'est-à-dire que ça gêne les enfants d'être au courant de la vie sexuelle de leurs parents. Et c'est exhibitionniste de la part des parents de dire, tu sais, avec ta mère, hier on a eu 3 rapports sexuels, ça s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Non, c'est vraiment quelque chose à ne pas dire. Par contre, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais... Par contre, parce que peut-être qu'ils posent cette question aussi, parce que quelquefois ça arrive que les enfants entendent les parents avoir une relation sexuelle et pose une question. Ça, c'est un peu différent. Donc, on peut leur dire, oui, tu sais, nous, on sait, mais ça nous arrive de faire l'amour. Mais il ne faut pas rentrer dans les détails. On peut aussi leur dire, tu sais, avant que tu naisses, on s'aimait beaucoup, on a fait l'amour pour t'avoir comme tous les parents. Ça passe. Mais pas leur dire, hier, on a fait l'amour dans telle position, parce que sinon, les enfants vont avoir l'impression d'être au lit avec leurs parents, et ça, c'est pas sain du tout. Et au contraire, dans le sens inverse, je dirais, c'est la même chose, les parents n'ont pas à être au courant de la vie sexuelle de leurs enfants. Ils doivent les informer, éventuellement leur raconter des histoires, leur dire, tu vois, moi, j'ai connu une fille qui est tombée enceinte à 14 ans, je voudrais vraiment pas que ça t'arrive, des choses comme ça, mais pas les surveiller, les espionner. Leur dire, si tu as des questions, tu peux me les poser, mais pas leur dire, alors, tu en es où avec les filles? Comme un jour, un auditeur nous a dit que son papa lui disait, tu en es où avec les filles? Est-ce que tu as des rapports sexuels? Non, c'est pas... C'est intrusif, exactement, c'est le bon mot. Par contre, s'il lui dit, si tu as une petite copine et que tu as des questions à me poser, que tu c'est pas évident pour toi, tu peux me la poser, c'est différent, vous voyez. Ouvrir la porte, mais pas rentrer en force.
Et avoir une relation de prévention, en fait, en allant, par exemple, justement, tout à l'heure, vous parliez des infections sexuellement transmissibles et de la contraception, bien les informer sur ce plan.
Voilà, bien les informer de son mieux. Et comme on ne connaît pas tout, ce qui est pas mal, c'est de leur dire, si un jour tu as un problème, tu peux aller au planning familial à tel endroit ou voir tel médecin qui est très bien. Ou, voyez, et leur donner des choses très pratiques, quoi. Ou demander une pilule du lendemain en pharmacie ou donner des conseils pratiques. Pas juste dire tu peux m'en parler parce que des fois c'est difficile pour eux d'en parler à cause de cette intimité qu'ils cherchent à préserver. Et je dirais, il faut bien dire aux parents aussi que c'est bon signe qu'un adolescent veuille préserver son intimité et ne leur parle pas de tout. Ça veut dire qu'il grandit, qu'il se fait son monde intérieur et qu'il est en train de grandir. Donc il faut pas se dire, ma fille qui me racontait tout quand elle avait 7 ans me dit plus tout maintenant qu'elle a 12 ans. Ben non, c'est normal.
Alors, vous avez employé le terme de pilule du lendemain. Justement, on a eu une autre question de Jeanne sur cette pilule. Jeanne, qui a 16 ans et qui vit en région parisienne, elle demande, est-ce qu'il est recommandé d'avoir une pilule du lendemain ou un test de grossesse en avance? Deuxième question, est-ce que ça peut périmer, ne plus être valable au bout d'un certain moment, docteur Solano?
Alors oui, quand on a des médicaments d'avance, ça peut périmer au bout d'un moment. Ça, c'est sûr. Donc, il ne faut pas utiliser une pilule du lendemain périmée, par exemple, parce que le risque serait beaucoup trop grand. C'est complètement idiot. Hein. Par contre, c'est une très bonne idée d'avoir dans les familles des pilules du lendemain d'avance ou une pilule du lendemain d'avance. Et d'ailleurs, dans les recommandations aux médecins, on recommande aux médecins, quand ils prescrivent, par exemple, la pilule à une femme, qui peut être une maman ou une jeune fille, de lui proposer, de lui prescrire une pilule du lendemain. Au cas où il y a un oubli de pilule, par exemple, au cas aussi où sa fille ou une copine de sa fille ait eu un rapport sexuel à risque, par exemple en plein week-end, eh bien ça vaut le coup parce que ça permet d'éviter des grossesses non désirées et des IVG. Et ce qui est bien, c'est de dire à sa fille ou à son fils, d'ailleurs, si tu as des amis qui ont eu un rapport sexuel à risque, chez qui le préservatif a craqué ou qui ont fait une bêtise, comme on dit, c'est-à-dire un rapport sexuel sans contraception, eh bien, tu peux me demander une pilule du lendemain. Donc, si tous les parents faisaient ça, ça aiderait à avoir moins de grossesses non désirées. Alors, j'ajoute une chose quand même très importante, c'est que la pilule du lendemain, ça n'est pas une contraception à mettre en place en la décidant, parce que ça n'est pas du tout aussi efficace que les contraceptions préventives. Quand on prend la pilule tous les jours ou qu'on utilise des préservatifs systématiquement ou qu'on a un stérilet ou d'autres contraceptions ou un implant par exemple, c'est beaucoup plus efficace que la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, c'est en rattrapage quand on se dit
c'est de l'urgence.
C'est de l'urgence. C'est pour ça qu'on appelle ça la contraception d'urgence. Néanmoins, on sait que, par exemple, les IVG, au moins la moitié des IVG sont liées à des échecs de contraception parce qu'un préservatif peut craquer, par exemple. Hein. Donc, c'est quand même bien que tout le monde en ait. Et j'ajoute pour les parents, c'est pas mal aussi d'avoir un test de grossesse chez soi au cas où une jeune fille de l'entourage ait un moment de panique et qu'on puisse l'aider. Si elle n'ose pas aller à la pharmacie l'acheter, eh bien, par contre, elle en parlera peut-être facilement à une copine qui, elle, en parlera à ses parents. Vous voyez, donc je pense que c'est une chaîne de parents qui peut protéger les jeunes filles et les garçons aussi parce qu'ils sont eux aussi ils deviennent parents si une fille est enceinte.
Complètement concernée. Alors autre question, autre message. Cette fois c'est une auditrice du Sénégal. Jenaba, on l'écoute.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonjour Caroline. Bonjour docteur. En fait, j'ai 26 ans. Et j'ai jamais fait de rapport sexuel et j'aimerais quand même vous poser cette question. Est-ce que le fait de rester toutes ces années, pendant 26 ans ou plus, sans jamais faire de rapport sexuel est nuisible pour la santé? Et est-ce que ça pourrait avoir des répercussions Voilà, dans l'avenir, je me suis dit que je dois la poser cette question pour moi et pour peut-être d'autres filles qui sont voilà, dans les mêmes conditions que moi. Et merci beaucoup.
Alors, docteur Solano, cette auditrice Angenaba qui a besoin d'être rassurée, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Rester vierge au-delà d'un certain âge, elle a 26 ans, est-ce que cela peut avoir porté préjudice pour la santé?
Alors non, ça porte pas du tout préjudice pour la santé. Je dirais même, c'est plutôt le contraire qui est préjudiciable, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de relations sexuelles très jeunes avec beaucoup de partenaires, bah, ça expose à des infections sexuellement transmissibles. Quand on n'a pas de relations sexuelles, on n'est pas exposé. Et au niveau de la santé, ça ne donne aucune maladie, ni physique, ni mentale, ni psychologique. Par contre, quand on n'a pas eu de relation sexuelle à un âge avancé, 26 ans, c'est encore assez jeune, enfin, c'est pas quelque chose d'anormal. Il faut quand même se demander, est-ce que j'ai pas un blocage? Est-ce que ça dépend un petit peu si c'est par décision qu'on se dit, moi, j'attends de rencontrer quelqu'un de vraiment bien, qu'on ne l'a pas encore trouvé, ou si on se dit, moi, j'ai trop peur pour avoir des relations sexuelles. Et là, c'est un peu dommage parce que, enfin, c'est pas que c'est un problème de ne pas avoir de relations sexuelles, mais ça peut durer longtemps si on a un blocage et il faut peut-être s'en occuper, peut-être voir un psychologue ou en parler, chercher à comprendre ce qui se passe, vous voyez.
Tout dépend de la raison pour laquelle on est dans cette situation.
Voilà. Exactement. Pareil pour les hommes, c'est pas du tout gênant pour un homme de pas avoir eu de relation sexuelle avant 26 ans. Hein. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence les premiers rapports sexuels, eh ben souvent ça se passe pas parfaitement. Un garçon peut avoir une panne, un homme peut avoir une panne, une femme peut avoir une mauvaise lubrification, mais c'est pareil, ça peut se produire à 17 ans comme à 27 ans, mais c'est parce que c'est le début, on n'est pas encore lancé, on sait pas encore trop comment ça fonctionne, on est stressé, donc il faut pas se dire j'ai commencé à 26 ans, c'est pour ça que j'ai pas eu une très bonne érection ou que j'ai pas réussi à faire la pénétration pour une femme. C'est normal, il faut souvent plusieurs fois avant que ça réussisse et que ça fonctionne bien.
Alors, voilà. On va maintenant partir pour l'océan Indien, pour les Comores. C'est Sindhu qui pose une question qu'on écoute tout de suite.
Bonjour Caroline, bonjour Dr Solano, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. En fait, ma question porte sur l'impact des relations sexuelles sur la fertilité des jeunes filles. Est-ce que avoir des relations sexuelles très jeunes, vers 12-13 ans, comporte des risques d'infertilité chez les filles? En fait, j'ai été motivé à poser cette question car j'ai entendu dire que les filles qui ont des relations sexuelles précoces ou qui ont été violées dans leur bas âge ont des risques de ne plus avoir des enfants. Or, dans mon village, il fut un temps où les jeunes filles se faisaient marier très jeunes. Par contre, cela n'affectait en rien leur fertilité. Au contraire, j'ai même une histoire de l'une de mes grand-mères du village qui s'était mariée à 12 ans. À 13 ans, elle a eu son premier enfant qui malheureusement est décédé. À 14 ans, son deuxième enfant. Cette dame s'est retrouvée avec 12 enfants dans sa vie, c'est-à-dire elle a donné naissance à 12 enfants. D'ailleurs, quand on la voit avec son deuxième enfant, on dirait des frères et sœurs. Alors, je voudrais avoir des explications sur ma question. Et merci beaucoup.
Alors, docteur Solano, il y a beaucoup de choses dans ce message. J'ai retenu même des expressions. Se faisait marier, ce qui veut déjà dire beaucoup de choses. Alors, déjà, distinguer deux choses, docteur Solano, la sexualité et la fertilité. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec ce papa qui demandait si à 9 ans, on parlait de sexualité à une petite fille qui venait d'avoir ses règles. On distingue les choses, ça n'a rien à voir.
Justement, c'est que quand on a ses premières règles, on peut être fertile. Ça ne veut pas dire que le corps soit prêt, par exemple à 9 ans, à porter un enfant. La preuve, d'ailleurs, j'ai entendu moi quelque chose en tant que médecin, c'est que son premier enfant est décédé à cette toute petite fille de 13 ans qui était enceinte. Franchement, à notre époque, moi, ça me donne envie de pleurer presque d'entendre ça. Donc, effectivement, alors, il y a plusieurs choses. Cet auditeur disait, en fait, les femmes étaient très fertiles, même très jeunes. Ben oui, quand on est jeune, on est fertile, ça c'est sûr, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui a eu 12 enfants sans avoir de problème ou d'infection, et encore, perdre son premier enfant, c'est un problème terrible, je trouve, mais et d'avoir été mariée à 12 ans, être forcée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à 12 ans, il y a vraiment 0,001% des filles qui veulent avoir des rapports sexuels.
Parce que ce qui est intéressant aussi dans la question de Saindoux, c'est qu'on parle de choses abstraites, de mariage des filles, mais il n'est jamais question ni d'amour, ni de consentement. Et puis, on parle de filles et on fait bien exprès de ne pas parler d'enfants. Or, à 12 ans, on va normalement, on rentre au collège, on est à l'école primaire, on est une écolière, on est un enfant.
Oui, exactement, on est un enfant. Et alors, ce que je peux dire, c'est que bien sûr qu'avoir des rapports sexuels très tôt, obliger des jeunes filles de 12 ans, des petites filles, des enfants de 12 ans à avoir des rapports sexuels, eh bien, ça entraîne des risques d'infertilité. Oui, parce que tout simplement parce qu'elles n'ont pas un rapport sexuel toutes seules, hein, c'est avec un homme. Et cet homme, s'il a eu d'autres partenaires, eh bien, il va leur apporter des infections sexuellement transmissibles, une ou plusieurs. Et ça donne des infertilités, beaucoup d'infections sexuellement transmissibles, bouche les trompes, donne des problèmes au niveau de l'utérus et des trompes. Et donc, il y a des stérilités liées à ça. Et ce n'est pas tellement la fille qui est en cause, c'est l'homme qui a un rapport sexuel avec une jeune fille aussi jeune.
En plus, avec un vrai problème de santé publique hein, en Afrique subsaharienne, on le sait, c'est la fistule obstétricale. Et ça, c'est lié directement à la difficulté de mettre le bébé au monde, surtout lorsque le corps de la jeune fille n'est pas prêt. L'OMS l'indique, hein, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la principale cause de décès chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans dans les pays en voie de développement. Donc, non seulement ce n'est pas une question de fertilité, c'est plutôt une question de mortalité.
De mortalité et de santé. Et puis, en plus, ce qu'on sait aussi par rapport aux infections sexuellement transmissibles, c'est que plus on est jeune, moins la muqueuse vaginale se protège contre les infections. C'est-à-dire qu'une enfant de 12 ans qu'on oblige à avoir un rapport sexuel, elle a beaucoup plus de risques de se voir transmettre une infection si l'homme en a une. Donc, c'est des personnes qui sont beaucoup plus fragiles. Sans compter que quand on a 12 ans, eh bien, dire à son partenaire qui, lui, a priori, n'a pas 12 ans, hein, parce qu'il va être plus âgé, lui dire « non, je ne suis pas d'accord, je veux que tu mettes un préservatif », eh bien, c'est pas possible. On n'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de poids, on n'ose pas suffisamment, on n'a pas assez confiance en soi pour imposer ça. Vu qu'on s'est vu forcé à être marié, c'est qu'on n'est pas capable de dire non. Hein.
Donc, si on emploie le mot juste, docteur Solano, un rapport sexuel avec une fille de 12 ans, quoi qu'il en soit, c'est un viol.
Exactement. C'est toujours un rapport forcé. Ça, je suis d'accord avec vous, hein, tout à fait. Ouais, ouais.
Donc et ça c'est résume. Quelque chose de et le donc, viol est poursuivi résume. Par la et le viol c'est interdit par la loi et c'est interdit par aussi autre chose qui est c'est non. Voilà.
C'est non, c'est une vraie catastrophe pour la santé mentale, physique de la maman, pour sa longévité comme vous disiez Caroline, elle peut mourir, c'est une catastrophe pour une région, parce que une fille qui a 12 ans ou 13 ans à son premier enfant, bah, elle fait pas d'études, elle a pas de travail, elle va avoir 12 enfants qui vont eux-mêmes pas étudier parce qu'il y aura pas les moyens, etc. C'est tout un cycle. Elle saura pas éduquer ses enfants parce qu'en leur disant, ses filles, en leur disant, c'est pas possible parce qu'il faudrait qu'on lui expliquait tout ça. Donc, c'est tout un, comment vous dire, c'est toute une cinétique, une énergie qui va dans le mauvais sens. Et heureusement qu'on a progressé, justement. Et je suis bien contente que cet auditeur ait entendu que, ben, c'était pas une bonne chose qu'on disait maintenant que les femmes et les enfants aient des rapports sexuels dès 12 ans, quoi.
Et quand on le dit, mais la loi le dit également. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite avec toutes vos questions, vos auditeurs et les réponses du docteur Catherine Solano.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, docteur Catherine Solano, toujours avec nous dans Priorité Santé. Question sur la sexualité des adolescents. Mmh. Alors, on l'a entendu hein, depuis le début de cette émission, un besoin chez les jeunes d'être rassurés, parfois de vérifier certaines informations qu'on a pu entendre ici ou là. Alors, dans votre dernier livre, Le Grand Livre de la Puberté, vous répondez à des centaines de questions, les émotions, le corps, le fonctionnement. Est-ce que vous avez l'impression, docteur Solano, qu'aujourd'hui, les jeunes garçons, les jeunes filles connaissent bien ce corps en changement ?
Eh ben pas tellement. Enfin, disons qu'il y a quand même eu des progrès. Je vais pas non plus dire que ça n'a pas progressé. Par exemple, c'est très rare maintenant une jeune fille qui a ses premières règles qui n'était pas au courant. Donc, et ce qui n'était pas le cas à l'époque de ma maman, par exemple. Donc, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Par contre, les laissés pour compte de l'éducation, ce sont les garçons. Il n'y a pas beaucoup de papas qui expliquent à leur fils tu vas avoir une éjaculation, comment ça se passe, etc. Et du coup, il y a quand même encore beaucoup de choses qui ne sont pas assez expliquées et qui angoissent pas mal les jeunes qui ne sont pas forcément au courant, parce que on a Internet, donc certains se renseignent très bien, mais sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Donc, si on tombe sur le n'importe quoi, ben, on n'est pas mieux renseigné. On peut même avoir des informations complètement fausses.
Avec notamment des informations, docteur Solano, sur la sexualité, mais aussi sur l'hygiène sexuelle, la toilette intime, la pilosité, tout ça, ça suscite beaucoup de questions.
Exactement, tout à fait. Il n'y a pas que la sexualité qui pose des questions aux ados. Il y a par exemple, comme vous dites, la pilosité. Il y a des filles qui se disent « au secours, j'ai des poils qui poussent ici ou là, est-ce que c'est normal ?» Des garçons qui se disent « moi, j'ai pas de poils, est-ce que c'est normal ?» Il y a la voix qui change chez les garçons. Des fois, c'est très complexé. J'ai connu des garçons qui, pendant un an, n'ouvraient pas la bouche parce que leur voix faisait « vous savez, comme ça, comme
pour les ados. » La mue, oui.
Oui, la mue, exactement. Il y en a qui sont très embêtés par ça parce qu'ils étaient dans une chorale et ben, ils peuvent plus chanter, ils sont obligés d'arrêter. Vous voyez, c'est des choses auxquelles on pense plus. Ils savent pas s'il faut se raser ou pas. Il y a beaucoup de garçons qui osent pas demander un rasoir à leurs parents alors qu'ils ont un petit peu de poils à la moustache au début et qui trouvent ça moche, vous voyez. Et ou les filles qui ont les poils qui poussent sur les jambes ou quelque part, ils trouvent que bon. Donc il y a plein, la transpiration aussi. Tout d'un coup, on sent moins bon si on se lave pas souvent, vous voyez. Donc il y a plein de petites questions qui sont pas seulement liées à la sexualité,
mais qui peuvent générer des complexes. On va passer à une autre question d'auditeur, si vous le voulez bien, docteur Solano, sur le répondeur toujours de Priorité Santé. On part pour le Cameroun avec Bikoko.
Bonjour, je m'appelle Bikoko Jean-Marc, je suis âgé de 17 ans. J'aimerais savoir, lors d'un rapport sexuel, est-ce que c'est obligé de faire certaines choses, comme par exemple tailler la pipe, faire la chatte? Je les pratique très rarement, hein, parce que déjà j'aime pas trop. J'ai des amis qui eux me disent que lors de leur rapport sexuel ils peuvent faire 15 à 20 minutes avant de jouir, mais moi au bout de 5-3 minutes c'est déjà là. Je sais pas, c'est dû à quoi? Je me pose ces questions parce qu'à la fin mes compagnes ne sont jamais satisfaites, en fait, c'est ça.
Alors, question de Jean-Marc, hein, donc qui pose ses questions avec son vocabulaire bien à lui sur les préliminaires. On a entendu des images, des choses assez imagées,
oui,
que je ne vais pas forcément répéter, ouais, je vais vous laisser le faire, docteur Solano. Donc, j'ai bien compris cunnilingus et fellation, hein, en langage différent,
médical,
on va dire. Voilà, pas forcément que médical d'ailleurs. Il dit qu'il n'aime pas trop ça et puis il parle aussi de la durée du rapport. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Ben, je vais répondre tout simplement, c'est que actuellement, on entend trop souvent parler des préliminaires en considérant que c'est la fellation ou le cunnilingus, c'est-à-dire le sexe oral. Or, les préliminaires, c'est pas du tout ça. Ce sont les baisers, ce sont les caresses, les câlins, etc. Et je dirais, c'est parfaitement normal qu'au début de la vie sexuelle, on n'ait pas du tout envie de faire de fellation ou de cunnilingus, même ça peut durer longtemps. Tout simplement parce que au début, quand on se trouve, déjà au début, se trouver nu avec quelqu'un, c'est quelque chose qui paraît inimaginable à beaucoup de personnes qui ont 14, 15 ou 16 ans, qui se disent au secours, est-ce qu'un jour je pourrais faire une chose pareille? Donc quand ça arrive, c'est déjà une énorme émotion. Et du coup, ben on va pas, on n'ose même pas, par exemple pour une femme, elle va même pas oser toucher le sexe de son partenaire parce que c'est impressionnant pour elle. L'homme, il va pas oser toucher le sexe de sa partenaire, peut-être au début un peu ses seins. Donc normalement, ce genre de pratique, bien entendu, c'est très répandu, mais c'est naturellement, je dirais, ça vient au bout d'un temps de relation, parfois de quelques mois, parfois de quelques années, pour certains couples, quelques dizaines d'années. Et c'est pas du tout naturel que le premier jour où on a un premier rapport sexuel, on se dise, moi, je dois savoir tout faire, le cunnilingus, la fellation. Sinon, ben, j'ai eu hier une patiente en consultation qui a 50 ans, qui me disait, moi, la fellation, ça me dégoûte, j'en ai jamais fait. Donc, on ne peut pas se dire je suis obligée de faire telle ou telle chose. Comme vous disiez, Caroline, j'aime pas le mot obligée, et heureusement. Mmh. Et on peut être très heureux sans ça, je dirais même, hein, vous voyez. Donc, ça, c'est
et cette fameuse question sur la durée des rapports, hein, qui est posée, question qui revient sans arrêt d'ailleurs par les auditeurs, posée d'ailleurs par des adultes comme par des jeunes.
D'accord. Alors donc je peux dire que cet auditeur n'a aucun problème parce que en réalité la durée de la pénétration avant l'éjaculation, ça dépend de la fréquence des rapports sexuels. C'est-à-dire que quand on est en couple stable, on vit ensemble, qu'on peut avoir 2 ou 3 rapports sexuels par semaine, ça a tendance à s'allonger. Quand on est un jeune homme, qu'on a une petite copine, qu'on voit une fois par-ci par-là, on a des rapports souvent plus espacés. Et plus les rapports sont espacés, plus l'éjaculation vient rapidement. Donc c'est normal quand on n'a pas une vie de couple stable que ça soit rapide. Surtout quand on est jeune ou on n'a pas eu l'apprentissage, l'entraînement pour apprendre à faire que ça dure plus longtemps. Deuxième chose, je peux parler de la masturbation. Si on s'est entraîné, je dirais, à la rapidité par la masturbation, le corps, il continue sur la lancée. Et puis, troisième chose, très importante, c'est qu'il dit, moi, ça dure 3-4 minutes, c'est ce que j'ai compris. Eh bien, 3 minutes, c'est la durée à partir de laquelle on considère qu'il n'y a plus d'éjaculation précoce. 3 minutes ou plus, c'est normal. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de médicaments. Il suffit juste qu'il apprenne petit à petit à respirer tranquillement, à faire des mouvements de va-et-vient un peu plus lents, à faire une pénétration doucement, que peut trouver les positions les plus bénéfiques pour que petit à petit il apprenne à ce que ça dure 5 minutes ou plus. Donc 3 minutes c'est normal. Quand c'est tout le temps moins d'une minute alors qu'on a des rapports réguliers, c'est plus embêtant.
Alors on va tout de suite partir pour la Centrafrique pour Bongui avec une question de Saturnin.
Bonjour Caroline, bonjour Dr Catherine Solano et bonjour aux auditeurs de Priorité Santé. Dr Catherine Solano, il m'est arrivé 3 fois dans la nuit, c'est successive, hein, 3 fois dans la nuit quand je dors, le matin quand je me suis réveillé, je constatais que j'avais éjaculé pendant le sommeil. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui est à l'origine de cette éjaculation-là? Et est-ce que c'est une maladie? Si c'est une maladie, comment ça se soigne? Est-ce qu'il y a des médicaments spécifiques pour soigner ce maladie, si c'est une maladie? Je voulais juste ajouter encore que si réellement, quelles sont les techniques qu'on peut faire pour éviter ce genre de truc.
Alors, docteur Solano, une explication peut-être sur ce que vient de décrire Saturnin, et puisqu'il voulait aussi, on l'a bien entendu, à la fin de son message, des conseils.
Alors, c'est tout à fait normal d'avoir des éjaculations nocturnes, surtout quand on est jeune, c'est très fréquent, il n'y a absolument rien à faire, ça veut seulement dire que le corps fonctionne bien. Donc, ce n'est pas une maladie, il n'y a aucun médicament, aucune technique. Ça peut se produire aussi chez des hommes plus âgés, surtout quand ils n'ont pas eu de relations sexuelles depuis longtemps, mais il y a aussi des garçons, même jeunes, qui n'ont jamais d'éjaculation la nuit. Donc, c'est quelque chose de normal, mais pas obligatoire, il n'y a rien à faire du tout, juste se dire mon corps fonctionne normalement. C'est tout.
Et voilà. Une auditrice du Cameroun, hein, on enchaîne. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. C'est Lucia qui est avec nous. On l'écoute, c'est une question santé.
Salut, je m'appelle Lucia, j'ai 16 ans. J'ai une question. Comment se manifestent les infections vaginales?
Alors, question santé, les infections vaginales, explication pour Lucia. C'est quoi et ça se manifeste comment?
Alors, une infection vaginale, ça veut dire qu'il y a un microbe à l'intérieur du vagin qui s'est multiplié, un microbe qui s'est multiplié anormalement parce qu'on a toujours des microbes mais qui sont plutôt bons habituellement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des brûlures, quand ça se produit, des douleurs, une irritation. C'est rouge et on a des pertes anormales qui sont pas comme d'habitude. C'est normal d'avoir des pertes hein, tout le temps, presque tous les jours. Mais par contre, quand elles brûlent, qu'elles sont d'une odeur bizarre, qu'elles sont pas comme d'habitude, là, il faut consulter parce que ça peut être une infection. Et j'ajouterais que ce n'est pas forcément une infection sexuellement transmissible. On peut ne pas avoir eu de rapport sexuel et avoir quand même une infection vaginale, parce qu'il y a des microbes sur la peau qui peuvent venir dans le vagin et se développer.
Et quand on a 16 ans et qu'on se pose ce genre de questions, on en parle à qui, docteur Solano ?
Le mieux, c'est d'en parler à sa maman d'abord, de lui dire « j'ai peur d'avoir une infection vaginale », et puis de lui demander « est-ce qu'on peut aller voir un médecin ?» ou on peut aussi demander à voir un gynécologue pour pouvoir et préparer sur un papier toutes les questions qu'on a à lui poser. Parce que quand on voit un gynécologue, qu'on a 16 ans, le ou la gynécologue va demander à la maman ou au papa qui accompagne de rester seule avec cette jeune fille parce que c'est son intimité, donc il lui posera des questions et donc la jeune fille, ça sera plus facile peut-être pour elle de poser des questions que à ses parents ou devant ses parents.
Alors, question donc, Facebook à présent.
C'est bien de proposer à ses enfants, ça me fait penser à ça. Si un jour tu as des questions à poser, que ce soit un garçon ou une fille, je peux t'emmener voir un médecin, je ne te poserai pas de questions si c'est personnel, vous voyez.
C'est important que la relation, que ce qui est dit avec le médecin reste entre le patient, bien sûr, et son médecin. Question Facebook, donc, maintenant, qui est posée par une auditrice. C'est Nelly qui nous écoute à Sfax, en Tunisie. Et elle écrit « Je me suis toujours demandé si avoir un gros sein, un sein plus gros que l'autre, était normal. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Nelly ?»
Alors, je dirais oui, presque toutes les femmes ont une asymétrie au niveau des seins. Certaines, ça se voit très peu, certaines, ça se voit beaucoup. Mais alors, quand on est toute jeune, au moment de la puberté, des fois, la différence est plus importante parce que les seins, bizarrement, ne poussent pas forcément à la même vitesse. Donc, il faut attendre de voir comment ça s'équilibre. Et généralement, ça s'équilibre à peu près. Alors, quand il y a vraiment une grosse, grosse différence, que c'est très gênant, on peut faire une opération en chirurgie esthétique qui est presque à ce moment-là réparatrice parce que ça peut être effectivement gênant.
Et il y a aussi au moment de l'adolescence des garçons qui sentent justement une tension mammaire. Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, alors il y a 50% des garçons qui ont les seins qui poussent à la puberté, 1 sur 2. Et ça peut durer 1 ou 2 ans. Bon, ça ne pousse pas autant que des seins d'une fille, évidemment. Et beaucoup de garçons sont angoissés, se disent « mais est-ce que je suis en train de me transformer en femme ?» C'est normal parce qu'en fait, il y a des hormones qui vont stimuler la pousse des seins avant que les androgènes, c'est-à-dire les hormones qui stimulent la pousse des poils et le fait que le pénis grandisse, ne soient en quantité suffisante. Et donc, au bout d'un moment, ça repart. Donc, il faut savoir que c'est normal, c'est pas inquiétant et que ça s'en va après.
Alors, allez-y, excusez-moi.
Non, je disais juste, c'est très fréquent.
C'est très fréquent. Alors, on va prendre une question, un message d'auditeur. Il est au Cameroun. On retrouve tout de suite Bouba.
Bonjour, docteur. J'ai 23 ans. Je n'ai pas de rapport sexuel. Ma question est la suivante. Mon pénis est trop courbé vers le bas. Ça a la forme d'une banane. J'ai peur que ça y ait d'impact sur l'acte sexuel, sur le plaisir et aussi sur ma partenaire. Et quelle position adaptée pour bien faire le rapport sexuel, pour que moi aussi j'ai de plaisir et ma partenaire aussi. Je ne sais pas, ça me dérange, ça m'inquiète beaucoup depuis que j'ai constaté la forme. Merci.
Alors cette inquiétude que formule Bouba, docteur Solano, sur son anatomie intime, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Je peux lui dire que c'est vrai que le pénis, il est plus souvent, quand il est courbé, parce qu'il y a des pénis droits aussi, en érection, il est plutôt courbé vers le haut, plus souvent. Mais il peut être courbé vers le bas, c'est tout à fait normal, c'est une variante un peu moins fréquente, mais normale. Ça ne pose pas de problème sexuel, ça ne diminue pas le plaisir de l'homme, ça ne diminue pas le plaisir de la femme. C'est juste que effectivement, Bouba, il a compris une chose, c'est qu'il y a des positions qui sont plus faciles quand on a un pénis courbé vers le haut et d'autres plus faciles quand on a un pénis courbé vers le bas. Et ça se voit dans la pratique. Et j'ajoute que j'ai eu un patient qui a eu le même cas que Bouba, un pénis courbé vers le bas, il était très complexé, il n'avait pas de vie sexuelle, il se disait « oh là là, ça va être terrible », jusqu'au jour où sur Internet, il est tombé sur un témoignage d'un homme qui disait « moi j'ai un pénis courbé vers le bas, c'est génial, mes partenaires me disent « mais avec toi j'ai bien plus de plaisir, pas dans les mêmes positions et tout », et donc il s'est dit « mais pourquoi je me prends la tête comme ça ?» et depuis, il n'a plus de soucis avec son pénis courbé. Donc en fait, C'est une variante et c'est tout à fait normal. Il faut pas que vous... Et je parle pour les femmes qui nous écoutent. Si votre partenaire a un pénis courbé vers le bas, ben, c'est différent. C'est un peu comme les gens qui ont les jambes un petit peu en parenthèse ou ceux qui ont les jambes un peu en X et ben, c'est... ou les autres qui ont les jambes droites. Le pénis, c'est pareil.
Mais malgré tout, ce qu'on entend, hein, c'est l'expression d'un complexe et cette inquiétude dont on parlait au début de l'émission de ne pas être tout à fait comme les autres. C'est quelque chose que vous entendez souvent en consultation ?
Ah oui, beaucoup de personnes se disent « est-ce que je suis normale ?» Par exemple, je pense à un patient qui me disait « j'ai des poils qui poussent sur la tige du pénis, pas jusqu'au gland, mais ben, c'est tout à fait normal. Il y a des hommes qui n'en ont pas, il y a des hommes qui en ont. Je sais pas, il y en a qui disent « mon pénis est courbé vers la droite ben, ». Oui, ben, il y en a d'autres, c'est vers la gauche. Vous voyez, je parle du pénis, mais c'est pour tout. Il y a énormément de petites questions à l'adolescence et même à l'âge adulte qui peuvent nous complexer, alors que dans 9 cas sur 10, c'est normal. Maintenant, il y a quand même des anomalies qui existent dans notre corps. Et donc, si on a vraiment un doute et que ça nous inquiète, il faut vraiment le demander au médecin qui, lui, a l'habitude d'examiner des patients ou des patientes et qui va dire si c'est normal ou si, effectivement, il y a une anomalie. Je pense, par exemple, aux seins qui poussent chez les garçons. C'est dans 50% des cas, il y a les garçons ont les seins à l'adolescence. Un petit peu, pas… Voilà. Et par contre, si ça dure très longtemps, qu'on a l'impression qu'ils poussent beaucoup et que c'est vraiment anormal, ben, il ne faut pas hésiter à consulter. Parce qu'il y a quand même quelquefois des anomalies aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout est normal, parce qu'il y a quand même des maladies. Si tout était normal, il n'y aurait pas de médecin. Mais il ne faut pas hésiter. Et même si c'est pour que le médecin rigole et vous dise c'est normal, il n'y a pas de honte à voir. Parce que qu'est-ce que c'est dommage? Par exemple, si Booba reste jusqu'à 35 ans sans rapport sexuel et sans copine surtout, en se disant « moi j'ai un sexe anormal », alors que c'est quelque chose de banal et fréquent, ben, ça serait vraiment dommage.
En conclusion, docteur Solano, si des parents vous disent « moi, je ne parle pas de sexualité à mes enfants, je ne réponds pas à leurs questions parce que, en fait, ça va les inciter à avoir des relations », qu'est-ce que vous répondez à ce genre de remarques ?
Je leur dirais qu'ils ont tort parce qu'il y a des études qui montrent que c'est le contraire. Moins on parle de sexualité aux enfants, plus ils ont des rapports sexuels tôt parce qu'on ne leur a rien expliqué et que c'est la seule manière d'avoir des informations fiables, c'est de se dire « je vais tester par moi-même ». Alors que si des éducateurs, des enseignants, des parents leur expliquent des choses, ils se disent « bon, j'ai à peu près compris, je vais voir comment ça se passerait ». Et donc leur curiosité est en partie satisfaite. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des rapports à 30 ans, ils seront quand même intéressés, mais ils seront beaucoup plus… Et puis, ils seront beaucoup plus capables de se prendre en charge au niveau des préservatifs, au niveau de la contraception, etc. Parce que c'est quelque chose qui fera partie de la vie. Ce ne sera pas quelque chose de tabou. Et ça, c'est très important. D'acheter un livre comme le mien, évidemment, mais aussi de peut-être, je fais de la pub, non mais aussi
oui, c'est clair, oui.
de trouver sur Internet des informations fiables et de dire tu peux aller sur tel site, parce qu'il y a quand même des choses bien faites aussi sur Internet.
Absolument, docteur Solano. Donc moi, je vais continuer votre publicité, un grand livre de la puberté, c'est chez Robert Laffont, c'est tout nouveau, ça vient tout juste de sortir. Merci, docteur Solano, et on se retrouve très prochainement dans Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise l'émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Didier Chérouse et avec aujourd'hui Raphaël Constant. Demain dans Priorité Santé, journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, nous parlerons santé, environnement, pollution, désertification, réchauffement climatique, impact pour la santé des poumons, pour l'alimentation. On en parlera bien sûr avec nos invités. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.